Nous nous approchons de Rosh Hashanah, n'est-ce pas? Oui. Ça veut dire quoi, Rosh Hashanah? Oui, littéralement, la tête de l'année. Ce qui donc suppose que c'est le début, n'est-ce pas? Rosh, c'est la tête, c'est donc le début. Le problème, c'est que, d'abord, on se demande pourquoi est-ce qu'on a besoin qu'il y ait un début à l'année. Et est-ce que vraiment... c'est vraiment le début de l'année et comment ça a été déterminé, etc. Ça fait partie de la tradition juive, je crois que la tradition juive se rapporte à la Torah. Est-ce que dans la Torah, par exemple, il y a des questions, est-ce que le mot, par exemple, l'expression Rosh Hashanah apparaît? Elle n'apparaît pas, n'est-ce pas? Il n'y a pas de Rosh Hashanah dans la Torah. En tout cas, si l'année commence quelque part, elle ne commence certainement pas à Rosh Hashanah. Pour une raison très simple, c'est que la fête de Rosh Hashanah que nous allons fêté très bientôt, est mentionné dans la Torah comme étant, avec une date. Il y a une date pour Rosh Hashanah, c'est quoi? Le premier jour du septième mois. Ouais, le premier jour du septième. Il n'y a pas écrit Tishri dans la Torah. Il y a écrit le premier jour du septième mois. D'accord? Maintenant, on peut dire que le septième mois c'est Tishri, c'est vrai. Mais dans la Torah ne connaît pas cette appellation Tishri. Le nom de Tishri est un nom babylonien, tiré d'une divinité babylonienne qu'on appelait Tashritu. Et donc, la Torah ne connaît pas ce mot-là. La Torah parle du premier jour du septième mois. Il y a combien de mois dans une année?
12.
Très très bien, Kol HaKavod. Et donc, septième mois, ça veut donc dire que c'est au milieu de l'année. N'est-ce pas? S'il y a 6 mois avant, 6 mois après. Donc, le jour de l'an tombe en plein milieu de l'année. Donc quelque chose qui cloche, n'est-ce pas? En toute bonne logique, je mets le début de l'année, le premier jour du premier mois, n'est-ce pas? Donc le premier Nissan, c'est là que commence l'année hébraïque. Ce qui d'ailleurs, la pure vérité, l'année hébraïque ne commence pas à Rosh Hashanah. L'année hébraïque commence le premier du mois de Nissan, qui n'est même pas fêté, c'est un jour de Rosh Chodesh. Il y a dans certaines communautés, par exemple chez les Tunisiens, chez les Libyens, alors il y a des minagim qui sont liés, on mange de la pchicha. Vous connaissez ce que c'est la pchicha? Hein? C'est bon, hein? Pchicha, c'est un truc tunisien, donc il y a de l'huile. Et c'est extrêmement énergétique. C'est très très énergétique. D'accord? Alors on allume une lumière, etc. Mais disons, c'est seulement un minhag, vous savez donc que la Torah ne mentionne pas de fête particulière pour le premier jour de l'année. Et puis alors, un jour qui tombe au milieu de l'année est appelé jour de l'an. Il y a quelque chose qui cloche, d'accord? Il y a quand même un verset dans la paracha de Ré, je crois, qui dit « Vechag asif betzet hashana » la fête de l'engrangement lorsque sort l'année. C'est la fête de Soukhot. Alors, si c'est vrai, ça voudrait donc dire que le jour de l'an, c'est Asimchat Torah, ou le premier jour de Soukhot. Pas très clair. Il y a dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 25, je crois, il est dit « Berosh Hashanah be'asor lachodesh » au début de l'année, le dixième jour du mois. Et donc, Rosh Hashanah, le dixième jour du mois, ça voudrait donc dire que Rosh Hashanah, c'est le jour de Kippour. Bah oui. Après, vous comprenez que c'est un peu compliqué tout ça, n'est-ce pas? Et il semblerait que c'est très important de déterminer quand est-ce que commence l'année. Par exemple, j'ai ici un traité du Talmud qui s'appelle Rosh Hashanah. Vous savez pourquoi? Pourquoi il s'appelle Rosh Hashanah? Parce qu'il parle de Rosh Hashanah. Et ça commence par... les premiers mots, c'est Arba Rashe Shanim Hem. Il y a 4 premiers jours de l'an. C'est-à-dire, on vous a complètement embrouillé. À part ça, si vous étudiez le texte de la Gemara, vous verrez qu'en fait, il y en a 6. Il y a 6 jours de l'an dans l'année. Il y en a qui disent 5. Il y en a qui disent 7. Oui, donc. Oui. Bon, c'est vrai que dans la culture générale, oui, c'est comme ça. Quand on dit le début de l'année fiscale, le début de l'année scolaire, le début de l'année grégorienne, c'est pas la même chose. D'accord? Oui, d'accord. Par exemple, le 1er septembre, c'est le début de l'année scolaire. Bon, alors, C'est pas la même année que l'année de l'an de grâce, comme ils disent chez eux. N'est-ce pas? Oui. C'est dans le Talmud, tout ça c'est dans le texte. Le texte de la Guémara par la suite, une tas de choses. Bon. En tout cas, donc, Rosh Hashanah n'est pas quelque chose de très simple, mais il semblerait que c'est extrêmement important. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand on fixe un début de l'année, ça, c'est une manière d'organiser le temps. De mettre un peu d'ordre dans le temps. Le temps est vécu comme une durée permanente, et puis, tac, on dit, on coupe ça en tranches. Il y a des semaines, il y a des mois, il y a des années, il y a des cycles, etc. Et comme nous autres, les hommes, nous vivons dans le temps, la manière que nous avons de considérer le temps, ça veut dire notre manière de considérer le monde. Ce que nous pensons du monde est implicite dans ce que nous pensons de Rosh Hashanah. D'où l'importance capitale de déterminer quand est-ce que commence le temps. Alors, vous connaissez la première mitzvah qui a été donnée aux enfants d'Israël, c'est quoi? Hein? La sanctification de la lune, le Kiddush HaChodesh. C'est-à-dire pour déterminer quand est-ce que commence le premier mois et quand est-ce que commence l'année aussi. C'est dans le même verset. Et vous vous rappelez du verset? C'est dans le chapitre 12 de Shemot. Vayomer Hashem el Moshe vel Aharon beretz Mitzrayim lemor. Et Dieu s'adressa à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte en ces termes. Achodesh Azé Lachem, Rosh Chodashim. Ce mois-ci est pour vous le premier des mois. Rishon Hu Lachem le Chodshe Hashana. Il est le premier pour vous des mois de l'année. Daberu El Koladat Ben Israël, parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites-leur d'amener l'agneau pour le sacrifice de Pessah. Ça veut donc dire qu'on ne pouvait pas commencer, et ça se passe avant la sortie d'Égypte. On ne pouvait pas entreprendre l'histoire d'Israël sans commencer par une réforme du calendrier. C'est comme ça que ça commence. Le judaïsme commence par une réforme. Ça commence par une réforme du calendrier, parce que si la Torah nous dit « Sachez qu'à partir de maintenant, le premier des mois, c'est ce mois-ci », ça veut dire que jusqu'à présent, on ne comptait pas comme ça. Hein? Oui. Alors le premier mois en question, c'est le mois de Nissan, qui est au printemps. Et le calendrier hébraïque est étudié de telle manière que toujours la fête de Pessah tombe entre le 21 mars et le 21 avril pour que ce soit toujours un jour de printemps. C'est-à-dire pendant le mois du printemps, Shamor et Chodesh Aviv va assister à Pessah. C'est-à-dire c'est quelque chose de capital. L'histoire ne peut pas s'enclencher tant qu'on n'a pas fait cette réforme. Pff, incroyable. Et comment est-ce qu'on comptait avant alors? C'était quoi le premier mois avant que ce soit Nissan? Hein? Vous avez 11 réponses possibles. Oui? Hein? Tevet, peut-être. Allez, autre, vous avez une autre idée? Tishri, oui. Adar. Hein? Shvat. Ouais. Bon, il y a trop de réponses là. Eh bien, la réponse, c'est que c'était Tishri. Le mois de Tishri ou de Tishri, comme on le prononce, c'était ça le premier mois, oui? Exactement. Rosh Hashanah désigne l'ancien jour de l'an. C'est une phase antérieure à l'histoire d'Israël. Effectivement, nous avons des preuves d'ailleurs archéologiques de cela, qu'à Babylone, au temps de Hammurabi, qui était un contemporain plus ou moins d'Abraham Avinu, eh bien, le premier mois, c'était le mois de Tishri. Il y a un texte intéressant du roi Hammurabi, dans une tablette cunéiforme, qui est adressé aux prêtres de Babylone. Il leur dit, l'année n'est pas en place, ajoutez un deuxième Elul. Vous avez compris? L'année n'est pas en place, ajoutez un deuxième Elul. Oui, c'est-à-dire, nous, quand on... L'année n'est pas en place, ça veut dire quoi? Qu'il y a un décalage entre l'année lunaire et l'année solaire. Et ce qu'on fait pour ça, on rajoute un 13e mois. C'est quoi le 13e mois qu'on rajoute? On rajoute un deuxième Adar. Pourquoi? Parce que l'année finit en Adar. Alors on rajoute un deuxième Adar. Si le roi Hammurabi, c'était donc un âne de rabbin, n'est-ce pas? Hammurabi. dit de rajouter un deuxième Elul, ça veut dire que pour lui l'année finit en Elul, donc elle commence en Tishé. Et donc la Torah ne pouvait pas admettre que l'histoire d'Israël se fasse avec des années comptées à partir de Tishré, et donc elle a dit, il faut maintenant changer ça à partir de Nissan. C'est-à-dire, c'est comme une sorte d'opposition diamétrale au monde des Goïm, et le plus des éloignés possible dans un cercle, eh bien c'est l'autre côté. D'accord ? Donc il faut 6 mois de différence, et donc ça tombe en premier Nissan. Ça c'est l'expression primaire, c'est l'interprétation primaire. On va voir que c'est plus profond que ça. Oui ? Vous voulez dire quelque chose ? Hein ? D'accord. Mais ça veut dire qu'il y a deux Rosh Hashanah fondamentaux, celui des Goïm, celui d'Israël. Mais pourquoi est-ce que les Goïm, dans l'Antiquité, comptaient les années à partir de Tishri ? Et pourquoi c'est tellement embêtant du point de vue de la Torah ? Oui ? Changement de climat. C'est l'automne. Oui, et justement, le climat de l'automne ressemble comme deux gouttes d'eau au climat du printemps. Ça en ascendant, ça en descendant. Ça ressemble. Oui ? Hein ? Alors, bon, on peut donner des tas de raisons. On peut, oui, c'est la moisson, c'est vrai, alors. Il y a les semailles aussi. Ça prouve quoi ? Par exemple, les goïms aujourd'hui comptent à partir du 1er janvier. Il faut bien qu'il y ait une raison, c'est en plein hiver. D'accord ? Comment ? Hein ? Oui, alors à chaque fois, il y a une raison à cela. Bon, il y a une raison, mais il faut trouver qu'est-ce que ça veut dire qu'on compte l'année à partir de l'automne. C'est quoi l'automne ? C'est la fin de l'été. Ça veut dire quoi la fin de l'été ?
Le début.
Et qu'est-ce qui se passe en automne ? Les feuilles tombent, oui. Il faut se préparer à l'hiver. La température diminue. C'est-à-dire, c'est là qu'on voit la disparition du monde. C'est-à-dire, il y a une décrépitude. Alors qu'au printemps, tout était florissant, que lors de l'été, la puissance de la chaleur, de l'exubérance du monde végétal, et puis après, ça commence à tomber. Oui ? Justement, ça veut dire quoi ? Alors, il faut se demander, qu'est-ce que c'est que le temps ? Est-ce que le temps, c'est quelque chose de pessimiste ou d'optimiste ? Alors, on peut dire que c'est pessimiste. D'ailleurs, on peut dire que le temps nous assassine, le temps nous tue, le temps fait que nous entraîne la disparition de tout, c'est la mort. Alors justement, il y a tout un problème. Il y avait un goy qui s'appelait Paul Valéry. Vous avez entendu parler de lui ? Oui. Hein ? Un Français. Paul Valéry. C'était un goy. Il y en a beaucoup. Mais Paul Valéry a dit « Les civilisations se savent mortelles. » Et ça, c'est très fort, parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose d'extrêmement décourageant. On fonde le monde. On crée des choses. Ce qu'on appelle la civilisation. Et puis on sait qu'un jour, après 1000 ans, 2000, 5000 ans, 10 000 ans, ça disparaît. Alors, ça veut dire que le temps est ce qui nous fait disparaître. Vous savez comment ce qu'on dit une année en hébreu ? Shana. Shana, ça veut dire, ça vient du mot changement, shinui. C'est le changement qui nous assassine, qui nous fait disparaître. Et donc, la vision qu'on a de l'ensemble de l'histoire, peut-être un grand automne. C'est-à-dire, l'histoire serait un automne gigantesque, dans lequel, finalement, tout disparaît. C'est la chute. Donc, on peut comprendre que, dans la vision des Goïm, commencer l'année par l'automne, ça veut dire, c'est déclarer ce que c'est que l'année. Oui, vas-y. Ah ben, oui, justement. C'est-à-dire que nous nous savons éternels. Nous autres, les Juifs, pour nous, le temps ne nous fait pas peur. C'est au contraire, on se dit, ah, c'est extraordinaire, on va traverser des tas d'expériences, on va accumuler des couches supplémentaires d'existence. Alors, c'est vrai que le peuple d'Israël souffre énormément. Nous avons une histoire absolument catastrophique de ce qui nous est arrivé. Et pourtant, il y a un optimisme fondamental du judaïsme qui dit, ben, non, l'histoire, c'est un printemps. Il y a un printemps permanent. C'est en train de monter. D'ailleurs, il y a un texte dans le livre de Tehillim, dans les psaumes, qui parle d'un dialogue entre Israël et les goïms. Et là-bas, on dit Velo amru ha'ovrim birkat shalom alechem. Les passants n'ont pas dit la bénédiction de la paix soit sur vous. Birkat, non, la bénédiction de Dieu soit sur vous. Berachnu etrem beshem Hashem, nous vous bénissons au nom de Dieu. Alors, c'est quoi les passants? Les passants, dit la Guémara, les passants, eh bien, c'est les goïms. Pourquoi ils sont appelés passants? Parce qu'ils passent. Vous avez compris, c'est cette vision-là. Mais à travers l'histoire des nations, Israël apparaît comme cet élément d'éternité. Et il sert à quoi? À sauver les nations. Oui, vas-y.
Vous dites que c'est des passants, des civilisations qui vont disparaître, mais à chaque fois qu'il y a une nouvelle civilisation, elle a apporté beaucoup de choses au monde.
C'est vrai.
Il y a une évolution à chaque fois.
Absolument.
Donc c'est pas inutile, c'est pas inutile, elle est inutile.
Absolument. Mais pour que ça marche, il faut qu'il y ait un élément de mémoire. C'est-à-dire, quand j'avais l'âge de 4 ans, j'ai joué aux billes. Je jouais aux billes. Ouais. Je me rappelle très bien, je jouais aux billes à l'âge de 4 ans. Et puis à l'âge de 15 ans, eh bien, j'ai appris à faire des mots croisés. Et puis à l'âge de 30 ans, j'avais déjà des enfants, etc. Mais maintenant, qu'est-ce qui fait que les parties de cette vie sont liées ensemble? Pourquoi je dis cet enfant de 4 ans, après il a eu 15 ans, après il a eu 30 ans? C'est pas le même. Si on prend une photo, c'est pas le même type. Ah, il y a une mémoire. Il y a la mémoire qui est une sorte de fil qui lie ensemble les perles d'un collier, n'est-ce pas? Donc, pour que l'histoire ait un sens, pour que ce qui est resté des civilisations serve à quelque chose, il faut qu'il y ait un réservoir de mémoire qui unifie tout ça. Donc, il faut qu'au milieu de toutes les nations qui disparaissent, il y ait une nation qui ne disparaisse pas. Et que cette nation porte en elle les empreintes de ce que chaque civilisation a laissé. Exemple de cela, qu'est-ce qui reste dans notre monde de l'Égypte ancienne?
Les pyramides.
Non. Les pyramides, c'est pas vivant.
Les
hiéroglyphes, c'est pas vivant. Les sarcophages.
Les sarcophages.
Les Égyptiens, mais c'est pas les mêmes. Ça n'a rien à voir dans l'identité. Si. Oui. Même s'ils descendent, ils n'ont pas la même identité. Oui, alors. Je vais vous dire qu'est-ce qui reste de l'Égypte ancienne. Il reste les Juifs. C'est-à-dire, nous sommes, nous, les derniers des Égyptiens. Non, comprenez bien.
Oui.
Mais tu rigoles, mais qu'est-ce que tu mets tous les matins sur ta tête? Et ça vient d'où, ça? T'as déjà vu des...
Ah, c'est les serpents,
qu'ils avaient là, hein, le petit serpent là qu'ils ont là, hein, ouais. Sur le pchent. Ils mettaient des téfilines, donc.
Wow.
T'as remarqué? Maintenant, la Torah, elle a pris un motif égyptien qu'elle a transformé. C'est-à-dire, au lieu que ce soit circulaire, c'est devenu carré. Il y a une signification. On passe de la nature au moral. D'accord? On passe du cercle à la droite. Il y a une signification à ça. Mais il faut bien comprendre, les intuitions de notre identité viennent de l'Égypte. Et donc, si quelque chose est sauvé de l'Égypte ancienne, c'est nous. D'accord? D'accord? Bon. Il faut dire qu'à chaque fois dans l'histoire, il y a quelque chose de chaque civilisation qui est préservé et qui est introduit dans le trésor d'Israël pour retrouver l'identité humaine dans sa plénitude. D'accord? Comment? C'est ce qu'on appelle la rédemption des étincelles chez les kabbalistes. Oui, vas-y. Absolument. D'ailleurs, qu'est-ce qui restera, par exemple, je veux dire, aujourd'hui nous vivons non pas la sortie d'Égypte, nous vivons la sortie d'Europe, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui restera de la civilisation européenne en fin d'histoire? Eh bien, il restera ce que les Hébreux en auront conservé. Par exemple, petite question, le régime démocratique, c'est bien ou c'est mal?
C'est bien.
C'est que bien?
Non,
c'est aussi mal. Disons.
C'est mieux démocratique que dictatorial.
Ça dépend des cas. Il y a des situations. Bon, peu importe. Ce que je veux dire, c'est que de la culture démocratique sera conservée dans l'histoire ce qu'Israël en aura conservé. Rappelez-vous de ça. Dans 2000 ans, on se rencontre. Hein. D'accord? Et vous verrez donc comment nous avons agi dans l'histoire comme cette sorte de boîte à mémoire. Et ça, c'est figuré par le fait, justement, que nous faisons la fête de Rosh Hashanah. Justement, incroyable. Nous sommes les seuls, encore, à fêter le jour de l'an des Babyloniens à l'époque antérieure à Abraham. Vous comprenez ? C'est-à-dire que nous préservons dans notre patrimoine le nouvel an des Goïm, à travers, mais nous sommes passés de l'automne au printemps, et donc nous printemps-ons, j'invente un mot, l'automne, d'accord ? C'est-à-dire que nous transformons ce qui était pessimiste en optimiste. Maintenant, remarquez une chose très intéressante. S'il y a un début à l'année et une fin à l'année, quand est-ce que finit le commencement de l'année ? S'il y a un commencement et une fin. À la fin du premier. Non, ça continue à commencer. Ça continue de commencer. Quand est-ce qu'on peut dire que commence la fin de l'année, disons ? Voilà. Pourquoi ? Et pourquoi pas l'avant-dernier ? On peut dire ça aussi. Mais quand on est le premier jour, on a toujours le sentiment d'être dans un début, même le deuxième jour. Je vais vous dire quand est-ce que ça commence. Je vais vous dire la vérité. Moi aussi, j'ai le droit de dire quelque chose ici. La fin de l'année commence après 6 mois. Ben oui, si vous divisez l'année en deux, vous avez 6 mois de commencement, 6 mois de fin. N'est-ce pas ? Donc, tant qu'on est dans les 6 premiers mois, on est dans le sentiment de quelque chose qui débute. C'est optimiste. À partir du moment où commence la fin, c'est-à-dire après 6 mois, on est en déclin, on est en fin d'année. Qu'est-ce qui se passe dans le calendrier hébraïque ? Tous les 6 mois, vous avez un jour de l'an. Donc l'année ne finit jamais. Elle commence toujours. Donc c'est un cycle. Maintenant, comment est-ce que ce cycle a été réalisé ? En faisant participer l'année des Goïm avec l'année d'Israël. C'est-à-dire, c'est dans l'universel d'Israël que se trouve justement l'espoir. L'espoir de faire réussir et les nations et Israël. Vous avez compris ? Jusque-là, tout est clair. Oui ?
Quelque chose de proche avec l'histoire d'Israël, pas d'Israël, de Yaakov, par rapport au milieu. Tu vois, est-ce que les musulmans, ils ont plus fait les aucune date l'une des nôtres ? Je ne sais même pas.
J'ai rien compris.
D'accord. Mais on dit comme quoi, par rapport à l'un des patriarches d'Israël, il représente le milieu, en fait, entre les deux.
Et alors ? Les goyim, ça veut dire toutes les nations. Les goyim, ça veut dire les nations. D'accord ? Ouais. Je parlerai maintenant du calendrier solaire, calendrier lunaire, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais disons, pour l'instant, on en est. C'est vrai que, disons, il y a, chez les Romains, il y a une fixation autour de l'année solaire. L'année des Européens, enfin de la civilisation occidentale, à 365,25 jours. C'est pas ? Hein ? Oui. C'est-à-dire tous les 4 ans, pour que ça fasse le cycle solaire. Et il n'y a rien à voir avec la Lune. C'est-à-dire l'année est divisée de manière artificielle en 12 mois de 30 jours ou de 31 jours, ce qui n'a absolument rien à voir avec la Lune. C'est un souvenir de la Lune. Tandis que chez les musulmans, il y a l'année lunaire. D'accord ? Il y a 12 mois qui ont 29, soit 30 jours. Et donc, il y a un handicap, un retard. Un retard par rapport à l'année solaire. Ce qui fait que le ramadan se déplace dans l'année. Parfois, il tombe en été, parfois en hiver, parfois en automne, peu importe. Parfois au printemps. Cette fois-ci, il est tombé au mois d'avril. Au mois d'août. Il est tombé au mois d'août. Mais il y a des années où il ne tombe pas au mois d'août. Et, en tout cas, il y a un déplacement. Et en fait, l'année d'Israël, d'après la Guémara, est fondamentalement l'année lunaire. Mais on rajoute le 13e mois pour rattraper le décalage avec l'année solaire. C'est-à-dire que Israël rattrape son décalage avec les nations. C'est-à-dire ceux qui dominent l'histoire sont ceux qui ont l'année solaire. des Européens, finalement, qui ont eu pour emblème du sommet de leur civilisation un roi soleil. Vous savez, il y a un roi... C'est vrai, j'avais oublié son nom. C'est comme le type qui rentre dans une pharmacie. Vous avez des comprimés d'acide acétyl salicylique? Vous voulez dire de l'aspirine? Ah oui, j'oublie toujours le nom. Il y a donc une situation qui était solaire, enfin une situation solaire qui est dominante, une situation qui est lunaire, qui est passive par rapport à l'histoire, et c'est un peu Israël en fait, la situation passive, mais qui se surmonte et qui adopte finalement le 13e mois pour rentrer dans le cycle des nations, tandis que l'islam a décidé de ne pas le faire. D'accord? Et donc il y a ici une sorte de conjugaison qu'on appelle Israël. On avait vu dans le livre de Bereshit que Yaakov s'appelait Shemesh Ve'Yareach, soleil et lune. D'accord? Tu te rappelles de ça?
Oui.
Alors où est-ce que j'en étais? Oui. Alors, une petite remarque. Vous avez donc compris qu'il y a une année pessimiste, qui est celle des nations qui commencent en Tishri, et qui s'appelle en hébreu Shana. Shana, qui veut dire changement. Et puis il y a une année qui est celle du renouvellement. Ça s'appelle en hébreu Hodesh. Chodesh, qui veut dire un mois, qui veut dire également ce qui se renouvelle. C'est la lune qui se renouvelle. D'accord? Hadash, ça veut dire nouveau. Voilà. Et donc, l'union entre le Chodesh et Shana, entre le soleil et la lune, c'est ça le temps d'Israël. Donc vous comprenez à quel point c'est capital de déterminer quand est-ce que tombe le jour de l'an. D'accord? Et c'est exprès donc que les Chachamim ont appelé le premier jour du septième mois, dont la Torah n'a pas dit le nom, ils l'ont appelé Rosh Hashanah. C'est intéressant parce que les Chachamim, qui représentent une époque beaucoup plus postérieure que celle de la Torah, en fait, reprennent une tradition antique antérieure à la Torah. C'est Rosh Hashanah. Jusque-là, vous suivez? Oui. Exactement.
Mais alors, ça veut dire dans la semaine, on pourrait dire Shavuot pendant les trois premiers jours.
Oui. Exactement. Et c'est ce qu'on fait. La Havdalah, on peut la faire jusqu'à mardi soir. Jusqu'à mardi, fin d'après-midi, on peut encore faire l'Avdala. C'est celui qui n'a pas fait l'Avdala, l'a fait à ce moment-là. Ouais. Mais il fait sans lumière et sans bessamim, avec le vin. D'accord. Maintenant, il y a tout un problème. Nous avons dit que l'année d'Israël commence en Nissan. L'année des nations commence en Tishri. Et l'année du monde, quand est-ce que le monde a commencé? En Nissan.
C'est la création du monde.
La création du monde en Nissan. Sur quoi te bases-tu pour dire une chose pareille? Le Rav Partouche vous a dit tout à l'heure que le monde a été créé en Nissan.
Ouais.
Ah oui? Nous allons voir. Il a dit ça? Ou il n'a pas dit ça?
Je crois.
Oui. C'est assez intéressant, mais ça n'a rien à voir avec notre sujet.
Je crois que
la création du monde en Nissan.
Par rapport à la création du monde.
Bon. En Nissan. Bon. J'ai une petite question à vous poser. C'est important, vous avez dit que l'autorité sur laquelle vous basez, c'est votre maître. Ce n'est pas le Rav Partouche, votre maître. Maintenant, est-ce que le Rav Partouche a un maître?
Oui.
Oui. Ça revient jusqu'où? Jusqu'au Talmud, n'est-ce pas? Jusqu'à Moshe. Voilà, on va voir dans le Talmud, n'est-ce pas? Alors, on va voir ce que dit le Talmud. C'est-à-dire le maître du Rav Partouche. D'accord? Je lis ici dans le chapitre, dans la page 10b, Yud Amud Bet. Tanya, on enseignait. Rabbi Eliezer Omer. Rabbi Eliezer disait, Betishri Nivra Haolam, c'est en Tishri que le monde a été créé. Oh là là, comment, le Rav Partouche ne sait pas ça? Si, ne vous en faites pas, il le sait très bien. Betishri, Noldou Avot, c'est en Tishri que sont nés les patriarches. Quel patriarche? Faux. Non. Je peux vous dire, moi, aussi? Puisque je sais, je peux le dire quand même. Bon. Abraham et Yaakov. Betishri, Metou Avot. C'est en Tishri que sont morts les Avot. Quel Avot? Non. Abraham et Yaakov. Très bien. Befessah, c'est à Pessah, Nolad Yitzhak, Kene Yitzhak. Vous avez compris pourquoi je vous ai dit que c'était pas, ça pouvait pas être Yitzhak. Be Rosh Hashanah, Nifkeda Sarah. C'est à Rosh Hashanah que Sarah a été fécondée. Rachel et Hana, ainsi que Rachel et Hana. Be Rosh Hashanah, Yatsa Yosef Mibet Asurim. C'est à Rosh Hashanah que Yosef est sorti de prison. Be Rosh Hashanah, Batla Avoda Me'avotenu Bemitzraim. C'est à Rosh Hashanah qu'a cessé la servitude de nos ancêtres en Égypte. Benissan Nigalou, c'est en Nissan qu'ils ont été délivrés. Betishri Atidin Leigael, c'est en Tishri qu'ils seront sauvés. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Eliezer. Alors, que fait le Rav Partouche avec tout ça? Non, je vais vous donner la réponse. Il y a une suite. Il y a une suite au texte. Il y a une suite. Je sais, je ne l'ai pas photocopié, je suis coupable, je sais bien, ce n'est pas la peine de me le rappeler tout le temps. Rabbi Yehoshua Omer, et Rabbi Yehoshua disait, Rabbi Yehoshua c'est Rabbi Yehoshua ben Hanania, le grand, oui, Rabbi Yehoshua Gadol. Rabbi Yehoshua Omer, Rabbi Yehoshua disait, Benissan Nivra Haolam, c'est en Nissan que le monde a été créé. Ouf, c'est donc le maître, c'est lui le maître du Rav Partouche. Il vous a dit, c'est en Nissan que le monde a été créé. Ah, génial. Benissan, Noldou Avot, c'est en Nissan que sont nés les Avot. Quel Avot? Très bien, Avram et Yaakov. Benissan, Metou Avot, c'est en Nissan que sont morts les Avot. Lesquels? Yaakov, très bien. Be Pessah Nolad Yitzhak, c'est à Pessah que Yitzhak est né. Ah, il est d'accord donc avec Rabbi Eliezer sur ce point-là. Be Rosh Hashanah, et c'est à Rosh Hashanah, Nifkeda Sarah Rachel Vechana, que a été fécondé Sarah, ainsi que Rachel et Chana. Be Rosh Hashanah Yatsa Yosef Mibet Asurim, c'est à Rosh Hashanah que Yosef est sorti de la prison. Be Rosh Hashanah Batla Avoda Me'avotenu Mitzrayim, c'est à Rosh Hashanah que le travail de nos ancêtres a cessé en Égypte. Be Nissan Nigalou, c'est en Nissan qu'ils ont été délivrés. Be Nissan Atidim Leigel, c'est en Nissan qu'ils seront délivrés. Exactement, il y en a un qui dit en Tishri, il y en a un qui dit en Nissan. Qui c'est qui a raison? Hein? Quoi, que les époques? Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua, ils sont de la même époque. Non, 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 les deux sont des restes d'Israël d'ailleurs. Ce sont les deux grands élèves de Rabban Yochanan ben Zakkai et ce sont les maîtres de Rabbi Akiva. D'accord? L'un c'est Rabbi Eliezer le grand, l'autre c'est Rabbi Yehoshua le grand. Rabbi Eliezer le grand est appelé Rabbi Yochanan ben, Rabbi Eliezer ben Horkanos. Et le Rabbi Yehoshua, Agadol, est appelé Rabbi Yehoshua ben Hanania. Voilà, ils sont contemporains, ils se connaissent, ils ne sont jamais d'accord. Ah, tu dis que les deux ont raison, mais comment est-ce que les deux peuvent avoir raison? L'un dit en Tishré, l'autre dit entre en Nissan. Comment est-ce qu'on peut avoir raison comme ça? Oui. Alors, c'est une façon de synthétiser, mais là, ils ont l'air de ne pas être d'accord. C'est facile, ça s'appelle synthétiser ce que tu fais là. Ça fait une synthèse. D'accord?
Il peut y avoir plusieurs débuts d'année.
Non, le début de création du monde. J'ai compris, ou bien. Bon, j'ai compris ce que tu dis. Mais est-ce que c'est admissible dans le texte? C'est-à-dire, dire chacun voulait parler d'autre chose et donc il n'y a pas de marloquet, etc. C'est joli, mais ça ne tient pas toujours la route. Il faut voir. D'accord? C'est vrai que d'après les kabbalistes, ce que tu dis est vrai. Mais pour l'instant, on en est à l'étude du texte lui-même. Oui? Il n'y a pas. Qui parle de Mashiach ici? Délivré, ce n'est pas le Mashiach. Géoula, ce n'est pas le Mashiach. Ça, c'est un thème que nous allons devoir étudier pendant le courant de l'année, de savoir qu'est-ce qu'on entend par le messianisme, Mashiach, Géoula, etc. Ce sont des notions extrêmement floues dans la conscience populaire. On va devoir rentrer dans le détail. Hein. Ah oui. Oui, vas-y. Et l'autre par rapport au premier mois de l'année, Tishri. Donc par rapport au premier mois de l'année aussi.
Ouais, mais ils n'ont pas pris le même premier mois de l'année.
Voilà. Mais en fait, c'est la même chose. À quelle époque ça n'existait pas, Rosh? Au commencement du monde. Ouais. D'abord, ça veut dire quoi que le monde commence pendant un mois? C'est assez bizarre, cette histoire. Ouais. Oui.
En fait, ils disent la même chose, mais...
Ils disent la même chose? Je ne sais pas. Quand l'un dit blanc et l'autre dit noir, je pense que ça veut dire qu'ils ne disent pas la même chose. À moins qu'on pense que le blanc, c'est une forme de noir. C'est un noir très léger. N'est-ce pas? Et puis un blanc très foncé, c'est le noir. D'accord? Bon, vous voyez que déjà, des choses qui nous paraissent tout à fait banales, quand on rentre dans les textes, on se rend compte qu'il est beaucoup plus compliqué que ça, n'est-ce pas? Ce qui vous invite soit à vous décourager, soit à l'étude. Qu'est-ce que vous pensez être mieux, le découragement ou l'étude? Oui, l'étude, voilà, très bien, voilà. C'est un bon point, un bon point. Bon, d'abord, j'aimerais comprendre quelque chose. En supposant, par exemple, nous allons étudier chaque opinion. Je prends ici l'opinion de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer dit que le monde a été créé en Tishri. Alors ça veut dire que qui a raison, les Juifs ou les Goïms? C'est les Goïms qui ont raison. Si les Goïms comptent à partir de Tishri, et que le monde a été créé en Tishri, c'est qu'ils ont raison. Ils commencent par le commencement. Tandis que Rabbi Yehoshua dit non, pas du tout. Le monde a été créé en Nissan, c'est les Juifs qui ont raison. Et donc la réforme, entre guillemets, de la sortie d'Égypte est en fait un rétablissement de la vérité. On a remis la montre à l'heure. C'est-à-dire que les Goïms se sont complètement plantés, ils ont commencé l'année en Tishri, ils ne se sont pas rendus compte que le monde était créé en Nissan. Alors vous voyez, c'est diamétralement opposé, oui. Oui, justement, tu as raison. Mais est-ce que ce n'est pas logique de commencer par le commencement? Donc si le monde a été créé en Tishri, c'est vrai, mais qu'est-ce qu'on entend justement par création du monde? Est-ce que ce n'est pas le début de l'histoire de l'humanité? Parce que... Oui, le problème de savoir qu'est-ce qu'on appelle création du monde. C'est-à-dire, par exemple, quand je dis, pour moi, le monde a été créé il y a une demi-heure. Ça veut dire qu'avant la demi-heure passée, ça ne veut rien dire pour moi. D'accord? Je vais avoir ça aussi. Oui? Oui? Vas-y, parle. Hein? Le mot création n'est pas très clair. Par exemple, d'après les scientifiques, le Big Bang... Selon la théorie du Big Bang, a eu lieu il y a quelque chose comme 14,6 milliards d'années. D'accord. Alors, je ne pense pas que quelqu'un a pu mesurer jusque là-bas. D'accord. 14,6, hein, je dis 100 millions de plus ou moins, grosso modo. Hein, d'accord. Bon, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment savoir ce que ça veut dire, un commencement de... D'ailleurs, vous connaissez le premier texte de Rashi sur la Torah. Rashi pose une question absolument incroyable. Pourquoi avoir commencé par Bereshit? Bizarre, quelle question. C'est une question bizarre. Pour la une fois, quelqu'un commence par le commencement, et tu dis pourquoi tu as commencé par le commencement? Justement, donc, la question de Rachid est absurde, a priori. Rachid dit, pourquoi est-ce qu'il a commencé par le commencement? Ben, c'est très bien, on commence par le commencement, non? Tout simplement parce que Rachid comprend qu'on ne peut pas commencer par le commencement. Parce que pour commencer par le commencement, pour comprendre ce que c'est qu'un commencement, il faut être avant le commencement, et c'est impossible. On ne peut jamais commencer par le commencement. Donc la question de Rachid est tout à fait pertinente. Pourquoi avoir commencé par le commencement? Il doit y avoir une raison à ça. Et donc Rachid donne sa réponse. D'accord? Oui?
Et la création du monde, elle dure effectivement
combien? Je ne sais pas combien de temps elle dure. C'est quoi? Le terme de création, ça, c'est un instant indivisible. Il y a avant, il y a après. Est-ce qu'on peut parler d'avant? Oui, alors justement, est-ce qu'impossible?
C'est écrit, mais avant, ça dure 6 mois.
6 mois? Où est-ce que j'ai vu dans la Torah que ça dure 6 mois?
C'est écrit dans la Torah. C'est écrit, ça ne dure pas
une vie. J'en sais rien. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Pour lire le texte de la Torah, il faut vraiment faire des efforts absolument gigantesques. Quand on dit la Torah Bereshit, je ne sais même pas ce que ça veut dire, Bereshit. Rachid dit que ça ne veut pas dire au commencement. Hein?
On
a quoi?
On arrête
de faire cours. Oui, c'est la raison de faire un cours, c'est parce qu'on ne comprend rien. C'est-à-dire, si on comprend tout, on n'a pas besoin du cours. Mais en tout cas, ce qui est très clair, c'est que Bereshit ne veut pas dire au commencement. Oui, c'est Rachid le dit en toutes lettres. D'ailleurs, il le prouve, que le mot Bereshit ne peut pas vouloir dire au commencement. Alors, il veut dire autre chose. Mais non, je ne sais pas. Est-ce que la Torah nous a dit combien de temps la création du monde a duré? Je ne sais pas si la Torah le dit. 6 jours. Lui, il a dit 6 mois. Il dit que dans la Torah, il y a écrit 6 mois.
Il n'y a pas écrit 6 mois dans la Torah.
Il y a écrit 6 jours dans la Torah. Mais est-ce que les 6 jours de la Torah, c'est le temps que ça a pris? Je ne pense pas.
Non.
Oui, alors écoutez, à partir de l'hiver, on aura une étude du livre de Bereshit. Alors, on rentrera plus dans le détail. D'accord? Oui? Bon. En tout cas, je reviens ici à ma question fondamentale. Qui a raison? Est-ce que c'est les Goïms qui ont raison? Est-ce que c'est les Juifs qui ont raison? D'après Rabbi Eliezer, les goyim ont raison. D'après Rabbi Yoshua, c'est les juifs qui ont raison. Hein? Moi, tu vois, ça c'est absolument... On ne peut pas faire ça comme ça. Rabbi Eliezer dit comme ça, Rabbi Yoshua dit comme ça, et moi, hein, je pense que ça ne se fait pas. D'accord? C'est-à-dire, on ne peut pas se mesurer à des galaxies. D'accord? J'en sais rien, on verra. Je vais te dire une chose. Chez les commentateurs, il y a trois opinions. Il y a trois opinions chez les commentateurs. Certains disent que la halakha est comme Rabbi Eliezer, certains disent que la halakha est comme Rabbi Yoshua, et certains disent que les deux ont raison. Ou bien en damier. D'accord ? Oui. C'est-à-dire quand il y a deux juifs, il y a toujours trois opinions. Et donc, il y a ici un problème de savoir qui a raison. Mais non, je veux dire, c'est pas si simple. C'est-à-dire que si je prends Rabbi Eliezer, les nations vivent selon l'ordre de la nature. La nature, c'est que le monde est un monde de Tishri, donc un monde en fait décadent. C'est-à-dire, il y a l'entropie qui fait que le monde va vers sa chute. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Israël qui sort d'Égypte? Eh bien, on a surmonté la nature. Il y a une sorte de renaissance, une sorte de miracle, pourrait-on dire. C'est-à-dire, l'apparition d'Israël dans l'histoire, c'est une sorte de miracle qui fait qu'on a remonté la pente. Pour Rabbi Yoshua, c'est tout à fait le contraire. Les goïms ne comprennent rien à l'ordre véritable du monde, puisqu'ils comptent le monde les années à partir de Tishré. Et c'est Israël qui a restauré, c'est une restauration de la vérité. D'accord? On peut dire que la vision qu'a Rabbi Yoshua du monde est plus optimiste que celle de Rabbi Eliezer. C'est ça? C'est un point important. Je crois que vous me suivez? Donc, on aurait plutôt tendance à accepter l'opinion de Rabbi Yoshua. C'est pour ça que le Rav Partouche vous a dit tout à l'heure que le monde a été créé en Nissan. Parce que le Rav Partouche est un grand pédagogue. Et moi, je suis plutôt nocif sur le plan pédagogique. Je vous dis tout. D'accord? Bon. Oui? Bon. Je voudrais aller plus loin. Je voudrais lier ça à trop de choses. Oui. Maintenant, une petite question. Vous savez que toutes les fêtes de la Torah ont une raison historique, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, la Torah n'institue jamais une fête s'il n'y a pas un événement historique concernant la collectivité d'Israël qui est à la base de la fête. Oui, une sorte de... plus qu'une commémoration. On revit l'événement. C'est-à-dire que le soir de Pessah, on sort d'Égypte. C'est pas qu'on se rappelle la sortie d'Égypte, on ressort. Et à Shavuot, on reçoit la Torah. Le septième jour de Pessah, on passe la mer Rouge. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé à Rosh Hashanah? Quelle est la raison? Quel est l'événement historique que nous mentionnons le jour de Rosh Hashanah? Non. C'était l'année dernière. Exagéré. Et alors, bon. Revenez à la case départ. Puis, avant que tu répondes, quel est le jour que la Torah a institué pour commémorer la création du monde? Oui, quel est le jour dans le calendrier qui commémore la création du monde? Hein? Pas du tout. Ça ne veut pas être Rosh Hashanah, puisque Rabbi Yoshua pense que le monde a été créé en Nissan. Ben non, ça ne peut pas être le premier Nissan, puisque Rabbi Eliezer pense que c'est en Tishri que le monde a été créé. Je vais vous dire tout simplement, c'est le Shabbat. Le Shabbat, c'est le jour institué dans la Torah pour commémorer la création du monde. D'accord? Donc ça n'a rien à voir avec Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est pas pour la création du monde. La preuve, c'est qu'on n'est même pas d'accord pour savoir si le monde a été créé en Rosh Hashanah ou le premier Nissan. D'après Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, ça peut pas être. Il est impossible qu'une fête aussi importante soit le sujet, la raison d'une fête aussi importante soit le sujet d'une controverse entre les rabbins. Donc il y a une autre raison pour laquelle la fête de Rosh Hashanah a été instituée. Vas-y. La mère de Jacob, quoi, Rivka? J'ai aucune idée.
C'est Sarah
en 1940. Rosh Hashanah, oui. Oui, mais attention, l'histoire des Avot, c'est pas une histoire nationale, c'est une histoire antérieure à l'histoire nationale. Il n'y avait pas de collectivité d'Israël à l'époque. Hein? La création, pourquoi la création? Oui, mais c'est antérieur à Israël. Or, la Torah n'institue des fêtes que si ça concerne le peuple d'Israël existant, pas un peuple potentiel. Enfin, la tentative est bonne, quand même. Comme on dit en bon yiddish, nice try. Nice try. Alors, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, alors, je peux donner la réponse? On l'a lu tout à l'heure dans le texte. Je sais que vous n'avez pas la photocopie. C'est là, c'est ce jour-là que nous avons cessé de travailler en Égypte. Hein? C'est pas impossible, mais ça, c'est pas une raison de faire la fête. Oui, on fait une fête à Rosh Hashanah parce que c'est le jour où nos ancêtres ont cessé de travailler. Ils n'étaient pas encore sortis d'Égypte, mais c'est là qu'ils ont cessé de travailler. Comme m'a dit une fois quelqu'un, vous autres les rabbins, vous parlez tout le temps de messianisme, machiar, tout ça, mais quand est-ce qu'on arrête de travailler? C'est plus important, tout le reste, on s'en fiche. Mais, vous comprenez, avant de la sortie d'Égypte, le premier événement qui a commencé le cycle de la sortie d'Égypte, c'était à Rosh Hashanah, lorsque nous avons cessé le travail. C'est-à-dire 6 mois et demi avant la sortie d'Égypte. Oui? Oui, on le fait pas. Oui, on ne dit pas. On ne mentionne pas ça. Mais on fait quelque chose. On sonne du chauffard. Le chauffard, c'est un signe de libération. Oui, il y a une libération. Il y a une libération du péché. Il faut voir pourquoi. Il y a également, lors de jubilé, lorsqu'on libérait les esclaves, lors de l'année du jubilé, ils étaient renvoyés à la maison à Kippour, mais pendant 10 jours, entre Rosh Hashanah et Kippour, ils faisaient des festins, avec des couronnes sur leur tête. C'est-à-dire que c'était le moment où ils étaient véritablement libres. Donc Rosh Hashanah était le jour de la liberté. Hein? C'est un jour de... C'est les 10 jours de pénitence, ce sont 10 jours de liberté, justement. C'est important. C'est-à-dire que la fête de la liberté chez les Juifs, c'est Rosh Hashanah. Et la fête de réception de la Torah, c'est quand? La fête où on a reçu la Torah? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas Shavuot. Pas du tout. Exactement, c'est Kippour. C'est Kippour. À Shavuot, il y a une révélation, mais on n'a rien reçu. Après, les tables, elles sont venues, elles ont été brisées. Moshe est remonté, il a ramené les deuxièmes tables. C'était quand? À Kippour. C'est donc à Kippour qu'on a reçu la Torah. Donc, vous avez, entre Rosh Hashanah et Kippour, quelque chose de très intéressant. Vous avez donc la fête de la libération chez les Juifs, c'est Rosh Hashanah. La fête du don de la Torah, c'est Kippour. Alors, quand on vous raconte Pessah et Shavuot, vous oubliez maintenant, c'est Rosh Hashanah et Kippour. Maintenant, Kippour, ça s'est passé combien? L'événement de Kippour, où on a reçu la Torah, ça s'est passé combien de temps après l'événement d'avoir cessé de travailler en Égypte? 1 an et 10 jours. D'accord? C'est-à-dire, d'abord on a arrêté de travailler, après il y a eu Pessah, après Shavuot, et l'année d'après, on a reçu la Torah à Kippour. Donc 1 an et 10 jours séparent Rosh Hashanah de Kippour. Donc Rosh Hashanah, c'est le début du cycle, et Kippour, c'est la fin du cycle. Vous comprenez pourquoi? Est-ce qu'à Rosh Hashanah, on prie pour tout ce qui va se passer dans l'année qui vient, et à Kippour, on fait l'expiation des péchés de l'année passée? Alors maintenant, je comprends rien. Rosh Hashanah, c'est le début de l'année. Kippour, c'est la fin de l'année. Et donc, alors maintenant, je vais comprendre. Les 10 jours de Rosh Hashanah à Kippour, ils appartiennent à quand? À quelle année? Celle d'avant ou celle d'avenir? Les 10 jours de Rosh Hashanah à Kippour, ils appartiennent à l'année précédente ou à l'année qui vient? Oui, mais alors, À quoi ils appartiennent ces jours-là?
5 jours avant, 5 jours après.
Non, ils appartiennent ni à l'un ni à l'autre, ils sont au-dessus du temps. C'est pour ça qu'on peut faire, pendant ces 10 jours-là, teshuva. On peut revenir en arrière dans le temps pour réparer. Ne mélange pas. C'est un moment assez exceptionnel. C'est un moment où on est au-delà du temps. Vous savez, une année en hébreu se dit shana, n'est-ce pas? C'est combien en la valeur numérique de shana? Allez, vous êtes sur la bonne route.
355.
Il y a combien de jours dans une année?
365.
Donc il manque 10. Voilà, vous avez donc 10 jours qui sont au-dessus de l'année, qui sont Rosh Hashanah. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Shalom.